Bienvenue sur le podcast Comme Julien. Je me présente, moi c'est Julien. En voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série/vendredi, sans accent, au singulier, tout attaché. Mon invité du jour est Ziyad Chouadi. Il est spécialiste gamification ou ludification en français. Et il a été cité dans le top 100 des influenceurs sur la gamification par Rise. Il a évolué sur différents postes, planificateur, gestionnaire d'équipe, coordinateur de projet. Et c'est en sortant d'un retour à l'université au Québec, après un long parcours comme intrapreneur, qu'il a décidé de se lancer dans l'aventure sur un coup de tête ou presque. Il se définit lui-même comme consultant couteau suisse au centre de l'expérience client et utilisateur.
Pour entrer direct dans le vif du sujet, qu'est-ce que la gamification ou la ludification en bon français ? Vaste question. Alors, si on va sur Wikipédia, tout le monde s'entend pour dire que c'est l'usage des techniques du jeu vidéo dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Mais quand tu lis ça, en fait, tu comprends vite que ça veut tout dire et rien dire. Moi, souvent, puis en plus, dans les professions, puis les différents spécialistes, on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres. Moi, souvent, ce que j'invite les gens, c'est plutôt que de se poser la question sur une bonne définition, c'est se poser la question sur quel problème ça résout, qu'est-ce que ça fait. Concrètement, en fait, c'est des techniques qui sont souvent issues du domaine du jeu vidéo, de la psychologie, etc., etc. Mais surtout, se dire que si c'est uniquement pour avoir du fun, comme un jeu, ben, c'est un jeu, ça n'a rien à voir avec la gamification, excuse-moi. La deuxième version, c'est si le but, c'est d'acquérir un savoir ou d'obtenir un apprentissage, ben ça, c'est du serious game, c'est un jeu sérieux. En revanche, si le but, c'est d'avoir un gain économique, donc avoir des dollars, des sous, des euros, ça, c'est de la gamification.
Ah, ok.
Donc, si tu as une finalité économique, qu'il soit un gain en termes de performance, une diminution de coûts, etc., ça, c'est de la gamification.
D'accord. La première fois dont on en avait parlé du sujet, on avait parlé notamment, tu m'avais donné l'exemple de Starbucks.
Oui.
Tu peux, par exemple, pour illustrer un peu et donner vraiment un point de vue, un exemple important qui est Starbucks, est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Oui. En fait, Starbucks, communication 101, merci de m'avoir posé la question, ce qui te fait gagner 2 secondes. D'ailleurs, je trouve très intéressante ta question, je gagne encore 2 secondes, puis ça me permet de réfléchir à ma réponse. Voilà, ça c'est fait. Non, Starbucks est vraiment un cas d'école parce que souvent, les gens associent la gamification à l'aspect UX, donc au visuel, aux nouvelles technologies, etc. Donc souvent, on va parler, exemple, de l'application Starbucks. Puis pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a un système en fait de leveling. On dira plus on consomme, plus on va au Starbucks, plus on achète de quoi, plus on a des étoiles, puis plus on gagne en fait de rang.
Ok.
Donc ça paraît très accessible. C'est comme un jeu vidéo, on gagne en expérience, etc. Mais en fait, la vraie plus-value de l'expérience, c'est plus au niveau de l'expérience client, parce qu'en effet, vu que tu fais partie d'une immense base de données, on va garder ça simple. En fait, quand tu vas dans un Starbucks, ben on te dit bonjour Julien. On sait que ton latte vanille, tu l'aimes avec, avec de la mousse sans lactose. On sait que le jour de ton anniversaire, ben tu vas recevoir un petit cup en or doré. On va te souhaiter, tu auras peut-être ton petit carré, de fondant ou de nougat ou bien ton brownie préféré qui sera fourni avec. Il n'y aura aucune erreur sur ton prénom. Bref, la véritable plus-value pour l'expérience utilisateur, c'est vraiment l'expérience client. Tu sais, t'es unique. Tes données sont utilisées pour que n'importe où dans le monde, à Bombay, Mumbai, Kowloon, à Montréal, gardons ça simple, n'importe qui, t'aies la même qualité de service. En revanche, la plus-value pour la compagnie Starbucks, souvent les gens pensent que c'est les data. Mais en fait, la réalité, c'est que dans l'application Starbucks et dans le système économique, il y a plus d'argent là-dedans que tout le système des cartes de crédit canadien. C'est une pompe à argent phénoménale. C'était quoi ? Il y a 5 ans, il y avait $20 US en permanence sur une appli en moyenne.
Ok.
Oui, ça représente, oui.
Ça représente des millions, voire des milliards.
Exactement. Je veux dire, si vous êtes banquier ou si vous touchez à la finance, là, normalement, il y a des trucs qui doivent... C'est bon, c'est des choses qu'on aime.
Ok. Et toi, aujourd'hui, donc, tu t'occupes de créer des jeux pour des compagnies comme Starbucks et autres. Comment ça se traduit pour toi dans tes projets? Qu'est-ce que toi, tu fais?
Alors, en fait, moi, j'ai trois axes où j'agis. Soit j'agis, en fait, uniquement en tant que formateur, où je travaille avec les designers internes, où c'est qu'en fait, je les forme à une bonne gamification, à ce que c'est. Puis, en fait, je fais du transfert de savoir. Quels sont les bons outils? Comment on fonctionne? Puis, c'est complémentaire au UI, au UX, à la communication traditionnelle, à tout ce qui est gestion des biais culturels, etc. L'autre version, qui est bien plus proche du designer, voire même du game designer, c'est effectivement, là, je conçois avec les équipes internes ou tout seul, justement, l'expérience en elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Du moment que j'ai décidé que j'allais utiliser cette application, où c'est que je veux amener l'utilisateur? Puis où c'est qu'il aura du fun, puis comment il va avoir du fun, puis selon son profil, les gens sont pour ou contre les personas, mais à date on les utilise encore. J'aime souvent comparer ça aux jeux vidéo parce que c'est assez proche. Quand tu bâtis un jeu vidéo, une expérience, ton but c'est d'amener le joueur jusqu'à la fin de ton jeu. La difficulté, c'est un, qui continue à utiliser le jeu, deux, qui fasse exactement ce que tu veuilles. Trois, que tu aies envisagé, prévu tout ce qu'il pourrait faire que tu n'as pas prévu pour le remettre dans le droit chemin. Et surtout quatre, qu'à chaque fois qu'il l'éteigne, tu lui donnes envie de revenir. Mmh. Et à date, je veux dire, on y est souvent avec le jeu vidéo parce qu'on a encore cette version comme quoi c'est pas sérieux. Mais ça reste l'industrie qui rapporte le plus, qui est la plus animée. Et c'est beaucoup plus efficace, c'est veux pas, que n'importe quelle publicité virale, n'importe quel buzz qu'on a éphémère sur les réseaux sociaux, ou n'importe quoi qu'on pourrait, je sais pas, moi, on parlait de shooter il y a quelques temps, c'est le meilleur cocktail qu'on pourrait faire. Ah ouais, on se dit tout, hein, 100% transparent.
Ah oui, d'accord. Tout passe sur le podcast.
Ah, c'est sûr.
D'accord. Et tu parlais d'expérience, d'outils. Quels outils, toi, tu utilises pour ça? Alors, je parle plutôt pas les outils que tu utilises pour travailler, oui, toi, mais peut-être plus pour recueillir des données et puis pour savoir comment, quel impact tu as auprès des utilisateurs.
Là-dessus, il y a une double question dans ta question. Déjà, un, on travaille souvent avec les outils classiques. Je parle souvent du persona.
Oui.
De surtout, mais quel est le type de profil d'utilisateur? Nous, souvent, on parle de joueur, mais ça reste un utilisateur. Nous, on va souvent rajouter aussi la gestion des biais culturels et cognitifs. Il y a une chose qu'il faut aussi, j'en profite. Souvent, les gens associent la gamification à un aspect, disons, très cosmétique, très design. Mais en fait, nous, on travaille énormément sur le comportement de l'être humain. Donc, on est très rattaché justement au biais, je le répéterai souvent, biais cognitif, biais culturel, les aspects psychologiques, psychomoteurs, etc., etc. Donc, on prend vraiment dans la globalité comment l'être humain fonctionne, quelles sont les mécaniques de base qu'on a sociales, personnelles. Et je te dirais qu'on va aussi très profond, tu sais, je donne deux exemples, on va pas s'arrêter à John, 34 ans, caucasien, habitant, je sais pas moi, le plateau. Il y aura 4,5, 3 enfants, etc. Non, on va surtout, c'est l'aspect psychologique. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans vie? Comment il fonctionne? Est-ce qu'il est droitier, gaucher? Quelles sont ses habitudes de vie? Est-ce qu'il lit beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'il a telle problématique? Ce qui nous permet aussi de faire des expériences, des fois pour des cas qui sont très très précis, simplement d'handicap lourd.
Ok.
Comment tu fais, une petite parenthèse, mais comment tu fais pour motiver, je dis monsieur, madame, tout le monde, à acheter un coca? Je dirais que c'est facile, mais comment tu fais pour motiver quelqu'un qui souffre d'un handicap lourd, qui est dans un milieu qui est souvent des hôpitaux beige, peu motivant, il y a peu de ressources, pour lui donner le goût de faire ses exercices quotidiennement, le fait de pouvoir le faire bouger, sans tomber dans la mécanique, je dis basique, de « bah écoute, il faut que tu te lèves, bouge-toi un petit peu, ou bien tiens, on va t'acheter une Wii, tu vas jouer avec. » Oui, mais la manette n'est pas adaptée, les jeux ne sont pas adaptés, l'environnement n'est pas adapté, etc. Mais rien que souvent, tu sais, je veux dire, ça reste des défis, excuse-moi, qui sont pour moi super intéressants, puis c'est aussi des grandes réussites, mais c'est vraiment ces aspects-là qu'on travaille. Excuse-moi, là, je suis comme parti super loin sur quelque chose.
Justement, parce que je me posais une question, c'est que là, tu parles, par exemple, de proposer des jeux à des personnes qui ont des handicaps lourds. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément un aspect économique qu'on va rechercher.
Excuse-moi, je t'ai coupé. Eh ben, je te dirais qu'en fait, oui, parce que le but, l'objectif pour en fait autant la société, l'assurance maladie que l'hôpital que le patient, c'est d'économiser de l'argent. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on sauve du temps. Et puis deux, c'est pas tant un jeu. C'est en fait, on va lui organiser un cadre adapté où il va pouvoir en fait où on travaille sur sa motivation intrinsèque. Il n'y a aucun aspect ludique. Souvent, je donne un exemple aussi qui peut être étrange. Souvent, moi, je travaille dans le domaine de la sécurité. Puis on me dit, ouais, mais la sécurité, jeux vidéo, je ne vois pas le rapport. Alors, effectivement. Ça me permettra aussi d'expliquer un truc. L'homme et puis la femme sont faits de telle façon que vous pouvez tester ça à la maison. Dites gauche à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vous dira droite. Prenez une aréna comme Colin, là, j'ai oublié le nom, l'aréna du Canadien à Montréal.
Oh, le Centre Bell.
Merci beaucoup, merci. Ça fait très touriste, Centre Bell. Non, je dis le Centre Bell. Simplement, prenons le cas typique. Vous voulez économiser sur le temps, si vous voulez économiser sur le nombre de portes ouvertes, sur la quantité de sécurité investie, sur j'allais dire le nombre de personnes, le temps de passage, tu sais, d'entrée, de sortie du personnel, des visiteurs. Et en plus, tu veux qu'ils aient une superbe expérience, etc. Ben c'est simple. Tu calcules le nombre. Ben évidemment, puis tu choisis un match, le Canadien-Boston.
C'est pour ça que c'est
fun. Puis tu comptes le nombre de partisans de Boston qui vont être là, et puis tu changes le nombre de portes. Par des chandails du Canadien, des chandails de Boston, tu vas voir que les gens vont splitter tout seuls. Ça va être aussi bête.
C'est de la ludification, c'est de la gamification.
Oui, c'est de la gamification, c'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que mettre une couleur bleue, une couleur rouge, puis tu dis à quelqu'un, ben, fais un choix. Tu peux être sûr que toi, tu vas dire rouge, puis la personne derrière, parce que le cerveau est fait de telle façon, non, mais moi, je vais dire bleu. Tu sais, c'est comme l'éternel, ta blonde te dit on va faire quelque chose, puis toi tu dis non. Bon, je dis ça parce que je sais que ça passe dans un podcast et que souvent c'est l'inverse, mais bon. Non, attends, il ne faut pas que je parle trop fort, je vais encore me faire cogner, mais bon. Non, je plaisante avec ça. Mais souvent, je veux dire qu'on a tendance avec la gamification à penser hyper technologique, hyper ci, hyper ça. Mais en fait, c'est souvent des mécaniques qui sont très très simples et qui tournent autour de notre psyché.
D'accord.
C'est souvent les choses les plus efficaces, parce que c'est pas toi qui vas imposer quelque chose à quelqu'un, c'est lui qui va décider tout seul parce que tu lui as proposé quelque chose puis que ça lui plaît.
Et est-ce que tu aurais pour quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est viable et que c'est intéressant pour quelqu'un qui crée une start-up, qui démarre un projet entrepreneurial? Est-ce que tu penses que c'est intéressant de prendre cet aspect de la gamification dans sa stratégie marketing?
Alors, déjà avant tout, j'adore ouvrir des parenthèses. Déjà, quand tu es en start-up, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est bon? Enfin, il faut avoir un objectif, un but. Si c'est juste pour appliquer de la gamification, pour te dire, tiens, je vais appliquer de la gamification parce que c'est le fun, parce que j'ai lu ça dans les affaires.
Parce que c'est tendance.
Parce que c'est tendance, parce que ça paraît bien. Et surtout, ce qu'on vit au sud de la frontière, parce que ça plaît à mes investisseurs, le fais pas. En revanche, tu peux toujours utiliser des solutions de ludification pour te motiver toi-même. Ça, c'est aussi bête que, je veux dire, le bracelet qui va compter tes pas, puis vu que tu as un feedback immédiat, tu dis, les deux extrêmes, j'ai fait que 2000 pas, je vais continuer à marcher, puis je vais en faire 3000. Ou l'inverse, waouh, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, je vais aller au McDo. Tu te récompenses tout seul. L'autre version aussi, c'est un outil de communication qui peut être très puissant parce que tu peux tu peux pas, c'est là où c'est très tendancieux, tu peux agir sur le comportement, tu peux créer le comportement que tu veux. Souvent, moi j'aime à me répéter, puis on le vit tous, 95% de ce qu'on fait, c'est plate. Magasiner, c'est plate. Marcher dans rue, c'est plate. Jaser avec le monde, c'est plate. Faire son épicerie, c'est plate. Mais je veux dire simplement, je dis payer son stationnement, c'est plate. Il n'y a jamais personne qui s'est dit qu'en rajoutant juste 3 notes à la fin quand tu payes, là, tu sais, comme les petits scoring de jeux vidéo, ça allait allumer quelque chose dans ton cerveau qui dit, oh, bah, c'est cool, c'est pas mal et tout. T'sais, les gens vont sûrement rire à ça, mais pensez à ça. Et surtout, pensez, je donne un autre exemple, les laves-linges et les laves, les sèches-linges les plus chères ont toute cette petite musique à la fin. C'est genre scoring, là, Pensez-y, tu vas payer une sécheuse, excusez-moi, à plus de 3000 piastres, mais tu vas être content de l'acheter parce qu'à la fin, elle te fait une petite musique qui va te rappeler un truc positif. Tu sais, c'est super niaiseux ce que je dis, mais c'est à inclure dans une stratégie globale quand tu as ta start-up. Par contre, tu peux transformer ça en outil puissant à l'interne en termes de motivation intrinsèque chez tes employés, chez toi-même. 2, tu peux communiquer en transformant toute ta communication en quelque chose de fun à vivre. Tu sais, les fameux passages, je reçois une newsletter. Ouais, mais t'as une newsletter, elle est... Est-ce que tu le fun? Puis quand je parle de fun, c'est ce qu'elle va provoquer quelque chose d'intéressant, être sympathique chez la personne qui le reçoit. Tu sais, prenons le cas du podcast. Qu'est-ce qui fait actuellement que les podcasts fonctionnent? C'est que les gens vont trouver quelque chose de sympathique là-dedans, quelque chose de fun. Ouais. Souvent, on va te dire, bah, écoute ce podcast parce qu'il est le fun. Par contre, il n'y a pas de points, c'est pas un scoring, on joue pas un jeu vidéo, mais il y a quelque chose dans la construction, dans le timbre de ta voix, quelque chose qui fait qu'en fait, c'est agréable.
Tu prends du plaisir quand tu écoutes.
Tu prends du plaisir. Ouais. Tu vas apprendre des choses, ça va être sympathique, ça va peut-être rapporter quelque chose, mais il se passe de quoi? Pareil, j'allais dire, dans le phénomène, tu sais, ben, l'acte d'achat. Pourquoi, je dis, ben, tu sais, on va tous chez Amazon, chez Salesforce, etc. Mais si on étudie concrètement, l'expérience client est la même. Par contre, il y en a certains qui arrivent à s'en sortir. Puis ça, c'est des cas d'études, des cas chauds. Mais ce que j'inviterais à faire, c'est penser à votre objectif. Regardez si le fait de regarder les bouts plates, les points bloquants, puis voir si simplement, en rajoutant un petit élément ludique, une petite approche, ça ne va pas juste faire disparaître le pain. C'est niaiseux ce que je dis, mais c'est souvent les solutions les plus simples.
Okay.
C'est qu'il faut embarquer les gens.
Donc, tu estimes que, par exemple, à certains endroits, rajouter de la musique, rajouter de l'interaction avec le client ou la personne qui est en face, permet de pouvoir éliminer certains bloquants,
oui.
Ou au moins réduire le gap qui peut exister entre le client et l'entreprise.
C'est un travail de constant pour que le client soit dans un cocooning de A à Z. C'est de l'expérience client. Du moment où il a eu l'idée de se dire ben tiens j'ai un trou dans le mur, ben il faut que tu sois là tout le long. Je veux dire après à toi de te débrouiller si tu veux lui vendre un service, un bouchon, Dieu sait quoi ou une idée, mais à toi de transformer ça et que ça soit adapté à lui. Tu sais, peut-être que faire des jokes ça marchera pas, peut-être que de faire la super app. Excuse-moi, je rigole avec ça. C'est de monter, par contre, encore plus, de monter un système d'intelligence artificielle avec du blockchain, puis des trucs le fun que j'ai entendu et que je sais pas du tout ce que c'est, mais que je vais vendre, ça va être cool. Non, tu sais, c'est vraiment, est-ce que ça va être utile? Qu'est-ce que je pourrais donner comme... encore plus simple, la musique. La musique a été un différentiel dans les bars. Tu sais, ici, c'est plus commun qu'en Europe, mais tu sais, quand tu marches dans la rue, t'as de la musique. Et selon la musique qui te plaît, c'est ça qui va être ton premier signal pour rentrer dans un bar.
Exact. Exact.
C'est bête. Par contre, ce n'est pas un signal qui marche sur tout le monde. Ça va marcher sur tel profil. À toi de savoir si c'est eux que tu veux dans ton bar.
Et est-ce que tu proposes justement des tests? Est-ce que tu fais des tests de bah, « tiens, cette personne-là, je vais un jour proposer ou à un moment donné de la journée proposer de la musique à une autre catégorie de population, je vais lui proposer un jeu, à une autre catégorie catégorie de la population, je vais y proposer encore autre chose. Est-ce que vous faites régulièrement des tests comme ça pour prouver un peu les idées et comment dire les hypothèses que vous avez, et puis à partir de ce moment-là, vous commencez à bâtir notamment perfectionner votre persona.
Alors, merci de m'avoir posé la question, pour ceux qui se rappelleront le début du podcast. Non, très sérieusement, oui, on est féru de data, même un peu trop. On travaille, c'est pour ça qu'au début, on travaille énormément nos personas, les aspects psychés pour toucher, puis surtout, après, on travaille en itération continue. Tu sais, on va tourner autour de la musique ou de la mélodie. Est-ce que ça a provoqué l'effet escompté? Oui, non. Pourquoi ça ne l'a pas effectué? Est-ce que l'échantillonnage était suffisant? Est-ce que c'était parce que ce n'était pas la bonne musique, etc.? On travaille aussi très, très près du client. C'est, puis ça marche aussi pour n'importe quelle start-up ou n'importe qui se lance. Travaille avec ton client. Il n'y a que ton client qui compte. Les subsides, les ci, les ça, c'est beau, mais laisse faire. Tu as un client, travaille avec lui, jase avec lui, essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut ça? Puis est-ce que c'est-tu vraiment utile, pas utile, et comment lui le proposer? Puis après, il y a la rationalité. Il veut une planche en or avec des rubis. Si c'est Joe Louis, on va attendre. Si c'est un émir du Qatar, oui, j'aime bien les biais, enfin les stéréotypes.
Ouais, je vois ça.
On va peut-être embarquer. Alors que peut-être que Joe Louis de Matane, lui, il est full cash, mais tu ne sais pas. Donc toujours bien travailler. Puis travailler vos biais. Cognitif et culturel, c'est un truc qu'il faut éliminer tout de suite.
Quand tu commences comme ça avec une compagnie ou avec une organisation en tant que telle et qu'on te dit, j'ai tel projet de gamification, par quoi tu commences? Tu commences déjà par, par le persona, mais quelles sont tes réflexions par la suite et quelles sont les étapes par lesquelles...
Alors, moi, je te coupe tout de suite. Moi, si on m'approche avec un projet de ludification, souvent, je ne vais même pas commencer à rentrer en matière. Je focalise sur... quel est votre objectif économique? Je rigole souvent avec ça, mais il y a des gens qui viennent me voir pour faire des jeux vidéo, il y a des gens qui viennent pour voir pour faire un projet de gamification. J'aimerais que tu me fasses des badges. Je peux te faire des badges, mais est-ce que ça va vraiment servir l'augmentation de ta clientèle? Est-ce que ça va augmenter l'augmentation de tes ventes, la diminution des coûts? La gestion des déchets de ta ville, un meilleur transit, etc. Non, mon premier truc, puis c'est très cartésien, c'est avant tout, quel est ton avantage économique? Quel est ton but économique derrière ça? Faire de l'argent, sauver de l'argent, voir autre chose, ça peut être la performance pure. Le deuxième, après, c'est vraiment, est-ce que ça fit avec l'organisation? Quand je dis l'organisation, quelle est la taille? Est-ce que le travail est pertinent? Est-ce qu'il y a une plus-value à amener de la gamification? C'est réellement. Puis ça, je suis très transparent là-dessus. Tu commences à t'en rendre compte, Julien. Mais peut-être que la gamification, c'est la fausse bonne idée. Surtout qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à des badges, des ci, des ça. Moi, je peux donner deux exemples. J'ai travaillé avec une certaine ville aux États-Unis où leur problématique, c'était baisser les coûts d'assurance. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ils mangent tous des salades, puis ils sont tous équilibrés. Simplement qu'en fait, ils voulaient diminuer. Non, mais il y avait une charge qui était importante. Puis ils voulaient un système de badge gamifié avec des jeux pour que les gens commencent à faire du sport. En fait, l'approche a été, votre problématique, c'est que les gens ne bougent pas assez. Enfin, tu sais, ils n'ont pas d'activité physique, etc. Puis ils voulaient que je vous monte un moteur spécialisé pour ça. Le vrai problème, c'est que vous voulez baisser vos coûts. Vos employés, les gens qui travaillent au sein de votre organisation, pour qu'eux-mêmes décident de faire du sport, d'avoir une vie plus saine. On a mis à disposition tous les outils gratuits, les applications mobiles, les forums, les si. On a juste retravaillé un peu leur intranet pour mettre les organismes ensemble. Puis on a acheté 3 coupes, Dolorama. C'est de l'eau à 3$. Puis on a juste expliqué dans une lettre interne qu'il y avait que le système était en place, que c'était à disposition pour les employés. En fait, après 3 mois, tu as les early adopters qui ont commencé à embarquer, donc commencé à tester les applications, commencé à aller, viens Jacqueline, on va aller faire 7 minutes dehors, de marche active. Ensuite, il y a le département comptabilité qui a croisé les finances en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a le marketing qui a embarqué. Puis en fait, après 6 mois, et créer leur propre écosystème. L'objectif là était juste d'offrir un cadre, c'est une place de jeu pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Puis la ville était très contente parce que l'investissement était minime et les gens ont embarqué, puis les gens ont fait ce qu'ils voulaient. Puis je veux dire, la mentalité avait commencé à changer. Puis là, ça fait, Corline, ça passe vite, ça fait 4 ans. En fait, j'ai encore des retours positifs. Les gens embarqués, puis c'est resté. Un autre système aussi qui n'a rien à voir pour donner, c'est la gestion des déchets. Les gens, souvent, tu sais, tu dis gamification, mais jeter ses ordures, ce n'est pas un jeu.
clairement. Ça n'amuse pas grand monde.
C'est ça. Et là, c'était assez touché parce que c'était dans un pays du tiers-monde, etc., qui n'a évidemment pas d'argent. L'organisme n'a pas d'argent, c'était non BNL. Et ils n'ont pas les infrastructures. Donc, on n'est pas dans des systèmes, comme on a pu voir, de poubelles qui te parlent, de systèmes de scoring. Mais simplement, je dis contrairement aux États-Unis, on est dans le sud. Donc, les gens capotent sur le soccer, le football. Donc, en fait, simplement, on a mis à disposition de tout le monde qu'en fait, la ville était devenue comme on avait transformé ça en 8 équipes par quartier. Et en fait, la voirie, les fois où elle passait, en fait, elle affichait les scores des 8 quartiers. Oui, je vois que tu dis non, c'est aussi niaiseux que ça. Et en fait, là-dedans, bah, ça n'a pas marché sur tout le monde. Mais il y a des mecs qui se sont dit, mais attends, mais...
on veut avoir le meilleur score.
Comment ça se fait que Laval, ils ont 8, puis nous, on a 0? C'est quoi ce jeu? Puis tu sais, on compte les ordures. Et les mecs, ils étaient récupérés les ordures, ils ont mis les trucs là-dedans. Ça, c'était le premier step. Deuxième step, on a commencé à mettre les couleurs sur les bacs. Et ensuite, on a mis des trucs de goal, etc. Puis comme je te dis, après 3 semaines, il y a eu les premiers effets. Puis là, Corline, ça fait 2 ans et demi. C'est rendu, il y a des sous-ligues, des catégories, il y a des championnats inter, ils ont monté des équipes où ils affrontent la voirie et tout. C'est vraiment fou. C'est ce qui me plaît aussi des fois, c'est que tu donnes juste un cadre et les gens vont faire ce qu'ils veulent, puis ça va t'amener beaucoup plus loin que tu pensais. Mais oui, les gens sont très contents, ça leur a coûté peanuts, puis ils ont eu, je t'ai dit, après 6 mois, parce qu'on travaille énormément en data, il y avait 940% de déchets ramassés en plus.
Où est-ce que tu vas chercher toutes tes idées?
J'allais dire une grosse bêtise que je ne peux pas dire en monde. Donc, placer là la bêtise que vous auriez dit, que vous n'auriez pas pu citer. Moi, je te dirais que c'est un mélange entre de l'expérience personnelle et puis de l'intelligence collective. Quand je dis expérience, les gens iront voir mon profil, mais je suis un peu un couteau suisse, donc je suis un touche-à-tout. Donc, je suis autant un créatif qu'un cartésien, qu'un côté très allemand, très carré. Qui arrive à l'heure, qui pense carré, qui était, etc. Qui a un côté un peu plus, on dira, du sud. J'arrive un peu en retard, la musique, etc. Donc, je niaise beaucoup avec ça. Mais ça met des images fortes dans la tête des gens. Ça, c'est le que communication sont un, chaque fois. et surtout, tu sais, j'ai travaillé avec des petites PME, avec des grosses organisations. Tu sais, j'ai piloté un paquebot où chaque département paye son stylo et où tu dois tout calculer 10 ans à l'avance. Puis tout le monde sait que ça marche pas. Mais on a toujours fait comme ça. Versus la super startup qui est dans une zone hyper compétitive où l'idée que tu as eue, tout le monde l'a eue. Mais toi, il faut que tu trouves une idée encore plus haute avant même que l'autre et que tu la lances déjà, c'est la folie. Et simplement aussi la curiosité. C'est super important de toujours regarder ce que le monde fait. Et quand je dis le monde, c'est la globalité. Tu sais, je suis assez content. C'est toujours un travail qu'on fait tous, d'être ouvert aux autres, etc. Mais tu sais, mon réseau est sur les 5 continents. Je discute avec des gens dont je n'ai pas forcément une bonne maîtrise culturelle.
Ok.
Mais par contre, j'y vais dans l'intention, moi, l'Inde, je ne connais pas.
Je veux connaître.
Je sais qu'il y a différentes ethnies, je sais que vous pensez normalement comme ça et tout. Souvent, le gars te dit, non, on ne pense pas comme ça, il n'y a pas différentes ethnies, qu'est-ce que tu me veux, etc. Non, c'est juste, c'est des échanges d'informations. T'sais, lui, je veux lui transmettre du savoir, lui va me transmettre du savoir. Et souvent, l'intelligence collective. T'sais, souvent, tu vas débarquer dans des milieux où ils sont tous soit plus intelligents que toi, soit ils savent tous de quoi ils parlent, et puis surtout, ils baignent là-dedans. T'sais? Alors, certains vont rester scotchés sur le monde du jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, laissez un peu faire ça en termes de gamification, pensez plus design et psychologie. T'sais? C'est pas du style, écoutez, vous avez des problèmes à vendre vos burgers, on va faire des Super Mario. Non. Non. non, ça va risque de pas marcher. Par contre, quelqu'un du quelqu'un marketing va dire, mais on va faire un Monopoly. Tout le monde aime le Monopoly. Puis dans 5 ans, ça sera des loot box. Pense-y à ça, pense-y. Alors, c'est du crack à un bébé. Vous pouvez me citer dans le texte. Les loot box, c'est du crack à un bébé. Non, mais je veux dire, c'est vraiment ça. Le but, c'est de toujours apprendre et de toujours confronter ses idées puis travailler avec l'intelligence collective. C'est là où on a les meilleures idées. C'est plus long, mais c'est souvent plus efficace.
La première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit que tu faisais partie des 100 personnes influentes.
Oui.
Tu avais été cité faire partie des 100 personnes influentes dans la gamification. Ça oui. Se traduit comment dans ta vie de tous les jours aujourd'hui?
Ah bah, je te dirais que bah déjà, au début, ça a été une surprise parce que j'ai travaillé longtemps avec ma compagnie. Puis du moment où je suis devenu travailleur autonome, bah, en fait, j'ai été capté par la plateforme Rise qui, en fait, évolue ta notoriété. Ouais. Puis je suis tombé, en fait, dans le top 100. Bon, au début, j'étais 97, 97 pour les quelques Suisses et Belges qui ont écouté. Ah, je fais du placement, moi, je me gêne pas.
T'as raison.
Là, je dis, il faut profiter, on doit être deux. Non. Puis après, je te dirais, on a commencé à parler de moi, j'ai commencé à connaître la communauté à Jaser un plus. Concrètement, au Québec, pour moi, ça n'a rien changé.
Okay.
Par contre, à l'étranger, ça a beaucoup bougé. Puis là-dessus, je te dirais, bah, je profite parce qu'on est sur un blog francophone. Malheureusement pour nous, la francophonie, on a 10, voire même 20 ans de retard. 20 ans, c'est pour le Québec. Par contre, les Anglos, tout ce qui est Chine et Asie du Sud-Est, plus que la Chine, sont hot. Puis même maintenant, la Turquie et puis l'Égypte ont doublé, en fait, les spécialistes européens. Simplement, d'accord, parce que c'est un engouement, puis les gars sont géniaux, puis ils créent des trucs. Actuellement, au Québec et dans la francophonie, on a encore énormément sur le prosélytisme. C'est comme moi, j'ai été nominé l'année passée, justement, au European Gamification Awards. Mais 95% c'était des Anglos et le reste c'était justement des Turcs, des Noms, enfin des types du Golfe, okay, des Allemands et puis moi qui suis considéré comme Canadien, même si j'habite au Québec. Mais c'est trop compliqué à leur expliquer. On n'ouvrira pas là le débat.
Non. Et petite question.
Petite, hein, la question.
Ouais, petite, parce que de toute façon, on va plus ou moins terminer là-dessus.
Oui.
Sur la gamification, j'aurais deux questions flash à te poser derrière. C'est quoi, selon toi, j'ai bien dit selon toi, oui, le futur de la gamification là, dans les 5 ans à venir?
Le futur. Alors, je dirais que pour les pays en voie de développement, ça va être la révolution. Quand je dis révolution, c'est eux vont pas faire des badges, ils vont pas faire des points, eux ont bypassé cette idée-là. Ouais. Donc, ça va vraiment être dans c'est des choses un peu inattendues. Tu sais, comme je te disais, tu vas avoir une porte rouge, une porte, tu vas avoir un conteneur de couleurs, tu as une poubelle qui va te parler, ouais, t'as un bus qui va avoir une énigme. Puis ça va t'envoyer dans un truc auquel t'as jamais pensé, etc. Pour les États-Unis, ça va être beaucoup plus discret, comme je te disais. Ça va être surtout, on dira des signaux. Comment on appelle ça? Du commun blanc, mais c'est pas grave. Ça va être des signaux indirects ou des signaux faibles. Tu sais, la petite musique, le petit engouement.
Okay.
Quand on aura passé le cap de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle agira au bon moment, me dira ce que j'ai le goût? C'est comme le fameux phénomène, tu suis le soccer, t'aimes le soccer. Hey dude, ton équipe nationale vient de marquer 2 points, c'est trop le fun. Puis on tombera pas dans le fameux, mais tu sais, pour ce prix-là, tu peux acheter 2 coca gratuits chez nous, parce que non, ça va être beaucoup plus subtil, ça va t'allumer, ça va s'afficher, etc. Après, pour la francophonie, je te dirais qu'on va rester encore ces 5 prochaines années, malheureusement, dans une idée de points, de badges, de tableaux, parce que les gens restent. Mais n'hésitez pas à me donner tort, j'adore avoir tort.
Superbe. Bon, bah écoute, merci Ziad, je vais te poser 2 petites questions, encore une fois des petites. Hein.
Oui, on aime ça.
parce que voilà, elles amènent souvent sur des grandes questions après, donc j'aime bien les petites questions d'abord.
Vous avez 2 heures, quoi.
C'est ça. Première question pour toi, quel achat récent a fait avancer concrètement ta vie ces 6 derniers mois?
Alors, ce n'est pas un achat, c'est un cadeau qu'on m'a fait.
Okay. Pas pareil.
J'insiste, hein, c'est un gros placement de produit. J'ai reçu simplement une montre connectée, un bracelet connecté. Par contre, pas un de ces bracelets qui te donnent les courriels, etc. Non, c'est vraiment le basic qui me donne le nombre de pas. Ouais. Battement de cœur, vraiment les basics. Mais simplement parce qu'en fait, ça m'a donné le minimum pour me faire passer à l'action. Tu sais, quand je te parlais du nombre de pas.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, c'est tout bête, mais en fait, ça... puis surtout, tu sais, quand t'es designer, c'est des gros drapeaux rouges, puis tu dis « Ah ouais, mais je connais ces mécaniques, mais c'est que ça marche. » Donc, c'est vraiment tout bête. Ça m'a donné le minimum de feedback dont j'avais besoin pour que le Ziad, il pense à l'acte, puis il commence à courir, il commence à se dire « Ah ben tiens, là, je suis moins essoufflé. Ah ben tiens, si je marche encore 300 pas, il y a un team, j'ai le droit de me gâter.
» D'accord. Donc ça, ça a été le cadeau qui t'a permis aujourd'hui de passer un peu plus à l'action.
Oui, c'est tout bête.
Super. Ah oui. Deuxième question que j'ai pour toi, 3 livres que tu recommandes le plus ou que tu as le plus offert?
Alors, livre, en fait, il y en a... Ça va être intéressant. Le premier, c'est tout bête, c'est « L'art subtil de s'en foutre », un guide à contre-courant de Mark Manson. C'est tout bête, mais en fait, j'adore ce livre. Soit tu le lis d'une traite, soit tu le lis par petits bouts, mais je trouve ça génial. Puis je te dirais que pour... ça parle à tout le monde. C'est vraiment le fun à lire. Puis c'est plus intelligent, puis le langage est accessible. Le deuxième qui fait vraiment forcer... j'ai pas écrit de livre, mais achetez-le. Mais je conseillerais la gamification ou l'art d'utiliser les mécanismes du jeu dans votre business de Clément Multin.
Ok.
Qui est en fait un Français. Il a quelques années, mais par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est aussi plein de petites recettes de cuisine vulgarisées. Donc n'importe qui peut les utiliser. T'es pas obligé de tout utiliser. Tu peux utiliser que des petits bouts. Puis pour tous ceux qui peuvent pas se les acheter, n'oubliez pas qu'on les trouve en bibliothèque.
Bien dit.
Puis le troisième livre, ça j'avoue que j'ai un peu réfléchi à ça. Je vous dirais n'importe quel livre qui peut vous déstabiliser ou vous faire apprendre quelque chose. Si une fois vous tombez sur un livre puis vous dites « Oh, mon zisque, c'est ça ?» c'est jamais je lirai une chose, lisez-le. C'est tout bête, mais on en trouvera tous un. Et à mon avis, c'est le meilleur conseil que je puisse donner des trois.
J'aime beaucoup l'idée.
C'est gratuit.
C'est super.
Ah non, c'est pas ça qu'on m'a dit de dire. Non,
Non, mais complètement. En plus, pour rebondir très rapidement et pour raconter une petite histoire personnelle, oui. J'étais à la bibliothèque justement tout à l'heure. Et pour la première fois, je me suis baladé dans les rangs sans savoir quoi prendre. Et en me disant, tiens, je vais prendre ce qui m'intéresse. Et je suis tombé sur 2 livres excellents. Je pourrais pas citer les noms parce que j'ai pas regardé, mais 2 livres, je pense qu'ils vont être très sympathiques à lire et qui vont m'apporter beaucoup. Donc c'est exactement ça. Je rebondis parce que c'est vrai. C'est les livres. Bon, là dans mon cas, c'est plus des livres que j'ai envie de lire. Oui. Mais malgré tout, des livres, des choses pour lesquelles on va un peu à contre-courant.
Ouais.
Fait d'habitude, et bien justement, c'est là où des fois il faut un peu aller parce que ça permet notamment de développer la créativité et puis de développer tout un tas de compétences qu'on peut avoir.
Donc, c'est aussi simple que ça.
Bravo, ouais. C'est la première fois qu'on me dit ça.
Alors, il y a une once de second degré pour ceux qui ne le maîtrisent pas trop, mais souvent quand on me dit ça, je dis désolé. Excusez-moi, je ne le referai plus. Je vais quitter mon chez-moi, puis je vais aller m'excuser auprès des voisins. Désolé.
Alors, moi, je vais te dire franchement, t'excuses pas, puis surtout, reviens-nous avec ce genre de référence et ce genre d'anecdote, ça me plaît.
Alors, si ça plaît à Monsieur Carcali, c'est bon. J'ai fait quelque chose en 2018. Merci, monsieur.
Merci Ziad. Bah, écoute, je te laisse le mot de la fin et puis je te remercie d'avoir été présent avec moi aujourd'hui pour parler gamification, ludification. Et puis, sache-le, tu es le bienvenu quand tu veux.
Alors moi, j'en profite avant tout pour remercier les gens qui auront investi quelques minutes de leur temps pour nous écouter. On n'a pas travaillé pour ça, mais voici le résultat. Et puis surtout, je voulais te remercier parce que je t'ai fait beaucoup de compliments en off sur la qualité de, je veux dire, de ton travail. J'aime pas ce mot-là. Qualité de ton podcast, parce qu'on sait qu'un podcast, ça se fait comme ça, là, comme une vidéo YouTube.
Oui, tout à fait.
Mais sincèrement, non, moi, j'ai regardé, je te suis un petit peu depuis le début. C'est excellent ce que tu proposes. Continue. Et puis, les gens, hein, on va casser. Partager ces podcasts, c'est à découvrir. Souvent, je te fais la comparaison à un certain qui a 2-3 ans d'avance, mais je te dis, tu es largement du niveau de nouvelle école. Et continue. Tu fais partie des bons. Non, c'est gratuit.
Tu me flattes beaucoup ce soir. Ça va faire. Je vais être obligé de.
Non.
Je vais aller chercher des mouchoirs, quelque chose. Là, parce que...
C'est ça. Bah écoute, tu vas t'excuser.
Merci beaucoup, Ziad. Puis je te dis à la prochaine.
Salut, Julien. Bye.
Bye.
Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série. Vendredi, sans accent, au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.